Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
Et nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec dans un instant le journal de Christophe Lamarre, toute l'info décryptée par la rédaction d'Europe 1. Et puis à partir de 19h20, ce sera votre débat du Club des Idées. Et si on essayait ce soir de voir le verre à moitié plein, de résister à la tentation de se dire que c'était mieux avant, mais plutôt que ce sera mieux après. Ce soir sur Europe 1, nous allons essayer de nous projeter vers ce monde d'après qui, fort de cette crise que nous vivons, va vouloir rebondir, innover, bousculer, fêter le retour à la vie. 2020, le retour des années folles, ce sera le thème de notre débat à partir de 19h20. Et puis juste avant 20h, on replongera dans les archives d'Europe 1. 1968, le professeur Christian Cabrol réalise la première transplantation cardiaque en Europe. Mais d'abord le point sur l'info avec vous, Christophe Lamarre. Vous êtes bien sur Europe 1, il est 19h.
Ce projet, c'est pas juste de se retrouver pour faire des expérimentations scientifiques, c'est aussi pour se donner une chance de revoir notre spectacle debout et de réunir notre public.
Du grain à moudre pour ceux qui militent en faveur d'une réouverture des lieux culturels. À Barcelone, un concert a réuni 5000 personnes fin mars. À l'arrivée, pas de signe de contamination.
Comment soutenir les jeunes pendant la crise? Le gouvernement lance un simulateur d'aide sur le site Un jeune, une solution.
Dans le Morbihan, une centaine de salariés bloquent la fonderie de Bretagne et empêchent la direction de sortir. Le site est mis en vente par Renault.
Paris et Berlin disent oui à la proposition américaine d'imposer une taxation minimale de 21% sur les bénéfices des multinationales. L'OCDE va se pencher sur la question cet été. Ce sera l'œil de Didier François, tout à l'heure notre spécialiste des affaires internationales.
Première demi-finale de la Ligue des champions de football ce soir à 21h. Real Madrid-Chelsea. Henri de Laguérie nous dira que les Madrilènes ont tout à perdre et plus que ça même.
La météo, Anissa Haddadi, le ciel s'assombrit.
Oui, les nuages envahissent le ciel demain, Isabelle. D'abord par le sud et puis presque toutes les régions dans l'après-midi seront concernées. Les nuages ne viennent pas seuls, ils amènent avec eux des averses et parfois même des orages. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est peut-être un signe d'espoir pour tous ceux qui rêvent de retourner au spectacle en salle ou en plein air. À Barcelone, 5000 personnes se sont rassemblées pendant un concert le 27 mars. C'était tout à fait légal, puisque c'était une expérimentation. Résultat des courses, aucun signe de contagion. Un mois après, Angèle Châtelier, on imagine que ce concert test répondait quand même à des critères très précis.
Oui, le public avait dû faire un test antigénique avant, puis porter un masque FFP2 pendant. Mais alors, il n'était pas interdit de danser debout. Tous ont refait un test PCR 2 semaines après et seuls 6 cas positifs ont été détectés. Mais selon les organisateurs, pour 4 d'entre eux, la transmission n'a pas eu lieu pendant. C'est donc finalement une très bonne nouvelle.
Alors ça, c'était à Barcelone. En France, Angèle, on en est où? Est-ce que la même expérimentation serait possible dans un futur proche?
Oui, en tout cas, des professionnels du secteur y travaillent depuis des mois, à Paris et à Marseille. Récemment, l'expérience à Paris a été validée. Priorité nationale. L'idée serait de proposer un concert d'Indochine à l'Accor Hotel Arena devant 5000 personnes aussi. Toutes devront avoir été testées négatives 72 heures avant, se soumettre à un test salivaire juste avant d'entrer dans la salle, puis de profiter du concert masqué. Les bons résultats du concert test à Barcelone sont encourageants. C'est ce que nous dit Malika Seguino, directrice du Prodis, le principal syndicat du spectacle vivant, qui travaille avec l'APHP sur le concert test parisien.
Voir ce qui se passe à côté de nous est très encourageant pour ce qui nous concerne, puisque effectivement, n'oublions jamais que ce projet, c'est pas juste de se retrouver à une certaine date X en mai pour faire des expérimentations scientifiques, c'est aussi pour organiser la reprise, pour se donner une chance de revoir notre spectacle debout et de réunir notre public.
Et pour l'instant, l'hypothèse sur laquelle il travaille, c'est un concert test qui aurait lieu à Paris fin mai.
Eh bien, ça donne envie. Vous suivrez ça, bien sûr, Angèle Châtelier, des services culture d'Europe 1. Aux États-Unis, où la campagne de vaccination a permis d'injecter déjà 200 millions de doses, les Américains peuvent maintenant enlever le masque une fois dehors, en tout cas sous conditions.
Oui, il faut d'abord qu'ils soient entièrement vaccinés. Et à l'exception du sérum Johnson & Johnson, qui est unidose, il faut 2 doses pour être immunisé. Et si c'est le cas, eh bien, ils pourront retirer le masque dehors, mais ils devront le remettre dès lors qu'il y aura de la foule. C'est ce qu'annoncent ce soir les autorités sanitaires américaines.
À Paris, le parquet ouvre une information judiciaire pour mise en danger de la vie d'autrui après la fête improvisée, vous savez, au parc des buts de Chaumont. Plusieurs centaines de personnes, dont certaines qui n'étaient pas masquées, se sont rassemblées pour écouter de la musique et pour danser.
Et puis à Lyon, on rappelle que deux frères qui avaient organisé une fête sur les berges de la Saône attendent de comparaître devant le tribunal.
Le chômage continue de baisser en France. Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité, a reculé de 0,4% au premier trimestre pour s'établir à 3 800 000 personnes. C'est le troisième trimestre consécutif de baisse. En revanche, sur un an, il augmente de 6,3%. Toutes catégories confondues, le nombre de chômeurs franchit la barre des 6 millions.
Et les jeunes sont frappés par le chômage et particulièrement éprouvés par la crise économique. Le gouvernement vient de lancer un simulateur d'aide. On le trouve sur la plateforme Un jeune, une solution. Ce simulateur a pour objectif de calculer toutes les aides auxquelles tous les jeunes ont droit, Hélène Terzian.
Et oui, les bourses sur critères sociaux, les aides au logement, les réductions dans les musées ou encore les aides financières pour les vacances. Souvent, les jeunes ne savent pas qu'ils y sont éligibles. Voilà pourquoi le gouvernement lance cet outil numérique baptisé la boussole. Elle doit permettre de mieux orienter les étudiants, les jeunes en recherche d'emploi, ceux en réinsertion, pour éviter le non-recours. Bref, faire en sorte qu'ils ne passent pas à côté de toutes les aides auxquelles ils ont droit. Prenons un exemple. Si vous êtes un étudiant de 20 ans en deuxième année de fac à Lille, vous n'avez pas de ressources propres, vous vivez en location dans un appartement de 500 euros, vos parents touchent un revenu brut annuel de 40 000 euros et vous envisagez de passer votre permis, eh bien en quelques minutes et après avoir répondu à une dizaine de questions, le simulateur estime que vous avez le droit à une bourse sur critères sociaux de 103 euros par mois, des APL à hauteur de 220 euros. Vous avez aussi accès aux prêts étudiants garantis par l'État, au permis à 1 euro par jour ou encore à un logement dans une résidence du Crous. Le site vous permet ensuite de faire vos demandes en ligne pour chacune de ces aides. Voilà donc le nouvel outil numérique lancé par le gouvernement, en plus donc des offres d'emploi, de stages, de formations recensées sur la plateforme Un jeune, une solution lancée fin 2020.
Précision signée Hélène Terzian du service politique d'Europe 1. Merci Hélène.
Dans le Morbihan, une centaine de salariés de la fonderie de Bretagne bloquent l'usine depuis ce matin. La direction est séquestrée dans ses bureaux.
Oui, Renault, propriétaire de la fonderie, a décidé de vendre. Et ce n'est pas d'ailleurs la seule fonderie qui est concernée par des projets de cession ou d'arrêt d'activité. Le gouvernement a promis 50 millions d'euros d'aide au secteur, mais à Caudan, dans le Morbihan, donc, les salariés veulent d'abord garder leur emploi, Marine Protet.
Oui, les salariés réclament leur maintien au sein du groupe Renault, propriétaire de la fonderie de Bretagne. Le constructeur automobile a annoncé il y a un mois et demi la mise en vente de l'usine. Depuis, selon les syndicats, la direction locale à Caudan reste sourde à leurs demandes. Ils ont donc décidé d'agir. Blocage du site depuis 11h ce matin. L'activité de production est à l'arrêt. Plus aucune pièce n'est fabriquée et surtout, aucun membre de la direction ne sort. Ils sont 5 retenus à l'intérieur. Mais Maël Le Goff, délégué CGT, ne parle pas de séquestration, seulement d'un moyen de pression.
On craint la fermeture de l'entreprise. Les salariés sont à bout nerveusement et physiquement. Et on n'a toujours aucune réponse à nos questions et surtout nos revendications qui sont simples, hein, c'est de rester dans le groupe Renault et qu'on puisse retravailler sereinement et normalement.
Et ces mêmes délégués syndicaux l'assurent, ils tiendront le siège tant que le groupe Renault ne renoncera pas à cette vente. Des équipes de 100 à 150 employés devraient se relayer toute la nuit pour occuper le site.
Merci beaucoup Marine Protet.
Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
19h09, c'est la suite de votre journal Christophe Lamarre. Et la taxe mondiale sur les bénéfices des entreprises, eh bien, ça n'est plus un serpent de mer puisque la proposition a été présentée hier par le Trésor américain à ses partenaires et elle a été acceptée aujourd'hui par la France et par l'Allemagne.
Et on va en parler avec notre spécialiste des affaires internationales. C'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Bon, l'instauration d'un taux d'imposition minimum applicable partout dans le monde, ce serait franchement une véritable révolution fiscale, mais à l'échelle de la planète.
Oui, exactement, et c'est l'objectif de Joe Biden, désormais soutenu avec enthousiasme par Emmanuel Macron, avec un peu plus de réserve, mais tout de même soutenu par Angela Merkel, ce qui donne à ce projet une certaine viabilité. Les ministres des Finances des pays du G20, donc les principales économies mondiales, sont même tombés d'accord sur une ébauche de calendrier mi-2021 pour finaliser les contours de ce nouvel impôt avec, après des négociations au sein de l'OCDE, donc l'Organisation de coopération et de développement économique, ce qui permettrait de le mettre en œuvre au premier semestre 2022. Alors, on voit bien que les parrains de ce projet ont décidé d'aller vite pour justement éviter au maximum les blocages, parce qu'il ne faut pas rêver, il va y en avoir, à commencer par les énormes réticences des grands groupes multinationaux, qui sont aussi en général les champions toutes catégories de ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, et qui est bien souvent de la fraude pure et simple, pour un montant quand même estimé chaque année à 245 milliards d'euros pour les seules sociétés. Il faut rajouter 182 milliards pour l'évasion fiscale des particuliers. Et c'est pas rien, c'est même intolérable quand tous les États, à hauteur de leurs moyens, mobilisent en ce moment des sommes considérables prélevées sur l'argent public pour des plans de relance afin de sauver les entreprises touchés par la crise sanitaire.
Et alors, ce nouvel impôt, Didier, il va donc servir à financer le redémarrage de l'économie mondiale.
Alors oui, en partie, l'idée de cette taxe, c'est d'instaurer un taux minimum d'imposition sur tous les bénéfices réalisés par une entreprise dans un pays, et cela, quel que soit l'endroit où elle a administrativement déclaré son siège. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, de nombreuses sociétés utilisent ce jeu d'écriture qui consiste à gagner de l'argent, par exemple, en Europe, mais à s'installer en termes de bureaux au Caïman ou au Bahamas, j'en sais rien, moi, dans les Caraïbes, pour ne pas payer d'impôts, justement. Eh bien, c'est cette mesure qui va permettre de faire perdre toute attractivité aux paradis fiscaux, qui ne pourront plus offrir cet avantage déloyal de prélèvement symbolique sur des gains déposés dans leur banque, mais qui n'ont pas été réalisés chez eux. Et donc, c'est une révolution pour la finance internationale, d'autant que si ce taux de taxe mondiale tournait autour des 21%, ce qui est le chiffre actuellement en discussion, eh bien, on serait sur un élargissement de l'assiette fiscale, donc au niveau mondial, d'environ 100 milliards.
Didier François, l'homme qui décrypte l'actualité comme personne, spécialiste des affaires internationales tous les soirs dans ce journal de 19h. Merci Didier. Le foot avec une première demi-finale de Ligue des Champions ce soir. Le Real Madrid face à Chelsea, c'est un match qui vaut le détour pour plusieurs raisons, Christophe.
Bien sûr, il y a l'opposition entre deux attaquants qui se sont croisés en équipe de France. Karim Benzema côté madrilène. En face, Olivier Giroud pour Chelsea, à condition qu'il soit titulaire. Mais Henri de Laguéry, il y a aussi les stigmates d'une Super League imaginée par le président madrilène et tuée dans l'œuf par les Britanniques.
Oui, à Madrid, le fiasco de la Super League est dans toutes les têtes, car vous l'avez dit, ce projet a été porté et incarné par Florentino Pérez. Le puissant patron du Real n'y a d'ailleurs pas renoncé. Il continue de défendre l'idée de ce tournoi fermé. Ce putsch pourrait-il coûter cher aux madrilènes ? Y aura-t-il des représailles de l'UEFA avec un arbitrage plus sévère ce soir ? C'est ce qu'on craint à Madrid. Zidane, lui, ne veut plus entendre parler de cette Super League. Il veut rester concentré sur son match.
L'arbitre va faire son job et nous, on va faire notre job sur le terrain. C'est tout ce qui nous importe. Le reste, en fait, on va jamais contrôler. C'est pour ça qu'en fait, ça ne sert à rien qu'on donne de toute façon mon avis. Le plus important, c'est de se concentrer sur notre travail qu'on a à faire, nous, sur le terrain. Le reste, ça ne nous intéresse pas.
Et sur le terrain, il y aura Raphaël Varane qui a été absent pendant plusieurs semaines après avoir été malade du Covid. L'autre Français en défense, Ferland Mendy, lui, est blessé. Mais l'arme la plus redoutable du Real ce soir s'appelle évidemment Karim Benzema, à son meilleur niveau en ce moment. Le Français banni de l'équipe de France et l'antithèse d'Olivier Giroud. Les deux hommes n'ont pas de bonnes relations. On ne confond pas la Formule 1 avec le karting, avait lancé moqueur Benzema quand on l'avait comparé à l'attaquant de Chelsea, décisif avec les Bleus, mais souvent remplaçant à Londres.
Ah, et le coup de la Formule 1 et du karting, on ne s'en souvenait plus. Bien voilà, il nous a rafraîchi la mémoire. Henri de Laguéry, correspondant d'Europe 1 à Madrid. Et puis demain soir, Isabelle, bien sûr, ce sera PSG-Manchester City. On rappelle, donc ce sera une soirée spéciale. Ligue des Champions demain soir sur Europe 1 à partir de 20h.
À cette heure-ci, on sera déjà au taquet. Merci beaucoup, Christophe Lamarre. On vous dit à demain.
À demain.
Anissa Haddadi, dites-nous, pour demain, parapluie presque pour tout le monde, c'est ça ?
Ouais, il va falloir vraiment y penser. Alors, vous ne l'aurez pas au-dessus de la tête toute la journée, je vous rassure.
Et au-dessus du Parc des Princes ?
Alors, au-dessus du Parc des Princes, si, ça va être humide quand même demain, quelques petites gouttes. Mais bon, ça avait bien réussi aux Parisiens quand ils ont joué en Allemagne contre le Bayern. Donc, pourquoi pas,
vous
le mauvais
c'est
temps. Ça pourrait effectivement être bénéfique pour nos Parisiens. En tout cas, demain, on aura une journée beaucoup moins agréable que celle d'aujourd'hui, beaucoup plus humide. La pluie, elle arrive d'abord par le sud, de l'Occitanie jusqu'au Grand Est. On aura des averses tout au long de la matinée. Et puis, dans l'après-midi, les averses vont vraiment se généraliser. Alors, pour faire simple, je peux vous dire que le temps va rester sec uniquement sur les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes, la Provence et la Côte d'Azur. Ailleurs, on aura des inverses par intermittence avec même dans le sud et en Normandie quelques coups de tonnerre. Les températures matinales, moins 1 degré à Charleville-Mézières, 3 à Rennes, 8 à Paris et 12 à Nice. Et puis dans l'après-midi, comptez 12 degrés à Dunkerque, 14 à Rodez et Caen, 16 à Biarritz, 21 degrés pour Paris et 23 à Strasbourg.
Merci Anissa, incollable sur la météo et sur le foot.
À demain.
19h15, dans un instant, ce sera votre grand débat. On parlera de l'après-Covid. À quoi ressemblera le monde d'après ? Année folle ou année molle ? Mes invités penchent plutôt pour la première option et c'est une bonne nouvelle. Mais d'abord, c'est la carte blanche du jour.
La Caisse d'épargne vous présente la carte blanche. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Europe Soir, Isabelle Millet.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide.
C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Et ce soir, c'est Nicolas Bouzou qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Alors, après le départ de Thomas Pesquet, voilà que vous voulez déjà aller sur Mars.
Oui, alors...
savez qu'il y a un lien entre Thomas Pesquet et Mars. Hein. C'est le fait que Thomas Pesquet est parti dans une capsule SpaceX, accroché à une fusée SpaceX d'ailleurs, donc la société d'Elon Musk, et que le grand projet d'Elon Musk via SpaceX d'ailleurs, c'est d'envoyer des humains sur Mars. Alors on fait déjà des choses sur Mars, hein, c'est pas SpaceX, mais on a déjà le fameux robot de la NASA, Perseverance, hein, vous en avez entendu parler. C'est un robot d'ailleurs qui vient il y a quelques jours de fabriquer de l'oxygène à partir de CO2, donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait exceptionnel et passionnant. On a un drone aussi, le fameux drone Ingenuity, qui est aussi d'ailleurs un drone de la NASA, qui est le premier objet volant à avoir volé un petit peu sur Mars, ça encore, hein, c'était il y a quelques jours. Mais le vrai défi aujourd'hui, c'est de réaliser un vol habité.
Et alors pourquoi c'est tellement important pour vous, Nicolas ?
Alors il y a trois types de justifications, hein, des justifications d'ordre géopolitique, économique et philosophique. Alors les considérations géopolitiques, bien, vous vous souvenez sans doute de ce très grand discours de Kennedy sur la Lune le 12 septembre 1962 à Houston. C'est là qu'il a annoncé hein, la mission Apollo qui allait envoyer des humains sur le satellite de la Terre. En fait, il en avait déjà parlé un an auparavant devant le Congrès, et il y avait cette idée de dépasser du point de vue technologique l'URSS qui avait déjà envoyé à la fois des satellites et puis bien évidemment Yuri Gagarin, le premier humain dans l'espace. Aujourd'hui, on est encore dans une guerre froide. Alors, ce n'est pas entre les États-Unis et l'URSS, c'est entre les États-Unis et la Chine, mais il y a cette course technologique qui utilise l'espace comme vecteur. Et je pense que c'est très important pour la civilisation occidentale d'affirmer le fait qu'elle est capable d'aller toujours plus loin dans l'espace. Des considérations économiques, parce que ça aussi d'ailleurs, c'est tout à fait passionnant, c'était dans le discours de Kennedy, hein, celui de 62, vraiment que je vous engage à lire, on le trouve très facilement sur Internet. Ce type de projet, ça force à l'excellence, ça force à l'innovation. Vous savez, en économie, nécessité fait loi. Quand on se fixe des objectifs extrêmement difficiles à atteindre, eh bien, on a des retombées économiques, des retombées scientifiques qui sont positives. Je vous donne d'ailleurs un exemple. L'économie circulaire, dont on parle beaucoup en matière d'écologie, eh bien, fabriquer de l'oxygène à partir de CO2, c'est bien du recyclage de CO2, du recyclage de carbone, c'est de l'économie circulaire, c'est très écologique. Et puis, il y a une dimension, c'est peut-être la plus importante d'ailleurs, mais une dimension philosophique, parce que depuis toujours, l'être humain a voulu aller plus loin, il a voulu aller ailleurs, il a toujours voulu voyager, il a toujours voulu explorer. Alors Mars, évidemment, c'est loin, c'est très très loin. Il faudrait 8 mois pour aller sur Mars quand les planètes sont bien alignées. Et puis, durant ce voyage, on verrait plus la Terre. Et donc, ce serait quelque chose de très nouveau pour les humains qui iraient. Mais il me semble que la grandeur de l'humain, c'est justement d'aller toujours plus loin. C'est de s'arracher à ses racines. Et le projet d'aller sur Mars, il répond justement à cette ambition philosophique.
C'est votre rêve à vous, non ? Nicolas Bouzou, d'aller sur Mars, quand ça sera
d'aller
possible.
D'aller dans l'espace, sans doute, d'aller sur Mars, j'attendrai que les technologies soient fiabilisées.
Je vous comprends, merci beaucoup. C'était la carte blanche de Nicolas Bouzou, merci Nicolas.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
19h21, c'est l'heure de votre grand débat du Club des idées sur Europe 1. Et ce soir, on a choisi de se projeter, de fermer les yeux et d'imaginer que tout ça c'est terminé. La crise, le confinement, la solitude, les bars, les restos, les cinémas, les théâtres fermés, la vie qui reprend. Ça va bien finir par arriver un jour, l'horizon qui se dégage, tout le monde vacciné, tout le monde démasqué. Alors à quoi ressemblera notre monde d'après ? Et si on prenait le pari que ce monde sera meilleur, un monde de progrès, de créativité, de succès ? En 2020, on parlait des années folles. Aurons-nous, nous aussi, des années d'euphorie post-crise ? On en parle ce soir avec mes invités. Jean-Marc Vittori, spécialiste éditorialiste au journal Les Échos. Bonsoir.
Bonsoir.
Le sociologue Jean Viard, directeur de recherche associé à Sciences Po, qui est en ligne avec nous. Guy Boyer, directeur de la rédaction de Connaissances des Arts.
Bonsoir.
Bonsoir à vous. Et Erwan Devez, spécialiste des neurosciences et de la gestion de crise, auteur de 24 heures dans votre cerveau, prendre ses émotions pour améliorer sa vie. C'est aux éditions Larousse. Bonsoir donc à tous les quatre. Merci beaucoup de m'accompagner ce soir pour ce débat qui s'annonce passionnant, je n'en doute pas. Alors en ce moment, ça ne vous a pas échappé, on n'a pas trop le moral. On a un peu de mal à imaginer quand on va enfin sortir de cette crise. On a du mal à se projeter, mais il ne faut pas oublier que par le passé, les périodes les plus difficiles, les plus sombres de notre histoire ont presque toujours été suivies d'une période d'euphorie. Ça a été le cas après la Première Guerre mondiale, on va y revenir. Malgré les difficultés économiques, on a plongé dans une vague d'insouciance et même de folie, d'où ce nom des années folles. Alors Jean-Marc Vittori, vous avez consacré un très bel article dans Les Échos à cet espoir fou des années folles. Et j'avoue que ça m'a donné envie, tellement envie d'ailleurs qu'on a décidé d'en faire un débat ce soir.
Tant mieux.
Parce que vous avez choisi de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Alors ce que vous nous dites Jean-Marc Vittori, c'est que cette crise terrible que nous vivons a permis de lever des blocages qu'il aurait sans doute fallu des années pour lever sans cette urgence.
Oui, oui, c'est le cas par exemple du télétravail. On a beaucoup d'entreprises qui disent qu'elles ont gagné en un an cette année, qu'elles en sont sur le développement de leur projet numérique cette année. Donc, ça a permis de faire sauter voilà, un verrou sur le télétravail. Oui. Qui était, on aurait pu télétravailler beaucoup plus depuis 10-15 ans déjà. Toutes les techniques étaient là. Mais on s'est mis à le faire l'an dernier, dans l'urgence, en 24 ou 48 heures dans mon journal et dans beaucoup d'autres endroits, parce qu'il n'y avait pas le choix de faire autrement.
D'autres et... exemples de verrous comme ça qui ont sauté ?
Alors, dans la médecine. Hein, le vaccin ARN, c'est une technique qui était en cours de maturation depuis 3 décennies. Et là, il y a eu un coup d'accélérateur absolument formidable parce que c'était la solution. Et on le voit bien aujourd'hui, encore plus qu'il y a quelques mois, c'était la solution. Et donc, on a pu faire un vaccin en un temps record. Hein. Je rappelle qu'entre le moment où le génome du virus a été entièrement décortiqué et la fabrication de la première dose de vaccin, il y a eu 42 jours. C'est quelque chose d'absolument inconcevable.
Oui, ça c'est unique. Et en plus, ces recherches sur le vaccin, elles vont certainement amener à d'autres découvertes qui vont permettre d'améliorer encore notre confort de santé, de soigner peut-être de nouvelles maladies. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Vous nous direz, bien sûr, tout à l'heure, Jean-Marc Vittori, quels sont les signaux qui sont au vert d'un point de vue économique hein, et qui nous permettent d'espérer. Erwan Devez, vous êtes spécialiste des neurosciences. Vous avez une expérience de 10 ans de gestion de crise au sein de la Croix-Rouge. Vous avez mené une étude pour évaluer l'impact de cette crise sur les Français, leur quotidien, leur état d'esprit, mais aussi comment ils vont appréhender la vie une fois le retour à la normale. Et finalement, ils sont plutôt très optimistes pour la suite.
Oui, absolument. C'est une double surprise, je dois dire. Effectivement, on a mené 2 études, en fait, avec Malakoff Humanis auprès des dirigeants, 800 dirigeants entre février et mars 2021, et une 2e étude avec la société Groupon auprès des Français. Alors, premier renseignement, eh bien effectivement, il y a un fort niveau de confiance, aussi bien pour les dirigeants que pour les Français. On est autour de 80 points de confiance, donc ça c'est une vraie surprise. Alors bien entendu...
Quel que soit l'âge, cet optimisme ?
Oui, et un point qui m'a particulièrement fait plaisir, 80% des 16-29 ans se disent optimistes pour le futur. Donc ça c'est un point qui est très important parce que... Aujourd'hui et depuis un an, effectivement, on est dans un climat extrêmement anxiogène, extrêmement catastrophiste. Eh bien, il faut sortir de cette logique de la peur, il faut sortir de cette logique de l'infantilisation, des oppositions. Il faut repartir sur une dynamique beaucoup plus positive. Et pour bien connaître les crises, pour bien connaître les guerres, j'ai effectivement 10 ans d'expérience un peu partout sur la planète, je peux vous dire qu'on est toujours extrêmement surpris de la vitesse à laquelle un cerveau peut passer d'un état un peu de dépression générale à une espèce d'exaltation et une fin de vie. C'est une fin F-A-I-M, bien
oui,
évidemment.
Une fin de vivre. Guy Boyer, c'est un classique, une société, comme le dit Erwan Devez, une société qui réalise qu'elle a survécu à quelque chose et qui finalement réapprend la légèreté, cette fin de vivre.
Ah bah alors surtout les années folles est un très très bon exemple. Donc on est juste après-guerre, les artistes sont partis au front, certains sont morts, d'autres ont très très mal vécu cette période. Et là, à Paris, c'est une explosion complètement fantastique d'activités, de mouvements artistiques. On peut citer peut-être le mouvement Dada, par exemple, qui va dire « zut ! » aux bourgeois. On peut citer l'École de Paris, avec tous ces artistes qui viennent de toute l'Europe. Les Modigliani, Chagall, Soutine, enfin tout le monde est là, à Montparnasse. Et puis, c'est l'époque aussi de l'art déco. Hein, on va inventer de nouvelles formes. Et puis, surtout, ça va ouvrir vers le surréalisme, un monde de l'inconscient, du rêve. Donc, on voit bien que dans cette après-guerre, dans cette immédiate après-guerre, qui était très riche, et peut-être qu'on va en parler
tout à l'heure. On va y venir,
Force économique de ces années 20 justifie ces années folles, joyeuses et un peu inconscientes d'ailleurs.
Jean Viard, réapprendre la légèreté, c'est aussi savourer chaque moment de la vie. C'est ça qui nous attend quand tout ça sera terminé ?
Ben, on ne voudra pas avoir souffert pour rien, on pourrait le dire comme ça.
On espère,
Mais oui, non, si vous voulez. Et puis moi, je trouve que, vous savez, dans des pandémies comme ça, on donne toujours le micro à quelqu'un qui est en train de protester. Mais moi, ce qui me fascine, c'est comme les gens respectaient les consignes, comme les jeunes ont été sympas avec les vieux. Vous voyez, on pourrait prendre des tas d'exemples. Et comme le niveau de vie des Français n'a pas baissé, il ne faut quand même pas oublier le tiroir caisse, même si je sais bien qu'il y a des pauvres qui ont été plus pauvres, notamment ceux qui travaillent au Black.
Oui, pas les oublier.
Donc, si vous voulez, non, mais il faut pas les oublier, mais il faut pas faire comme si c'était toute la société, parce que ce n'est pas vrai. Et si vous voulez, je pense que les gens ont réfléchi. Regardez comment on est devenu bon en informatique, c'est incroyable. On fait des émissions partout, des réunions, Skype, on est tous à discuter, Zoom, Skype, etc. Donc il y a tout ça qui joue. Et puis je vais vous dire, je pense que l'humanité est un peu plus humble face à la nature. Parce qu'au fond, on avait l'habitude, quand on allait chez son médecin, ben, on sortait avec une ordonnance, on était soigné, quoi. Et là, on va le voir, il vous dit, ben, tu restes chez toi, bien au chaud, tu sors pas, tu parles à personne. Je veux dire, comme traitement, les sorciers du Moyen-Âge n'étaient pas meilleurs. Donc si vous voulez, non mais c'est vrai, donc ça nous a mis, ça a relativisé, si vous voulez. On a une civilisation qui est une merveille, hein, scientifique et technologique par rapport à tout ce que l'humanité n'a jamais produit, mais on n'est pas maître et possesseur de la nature.
Bien.
Et ça, je pense que c'est un saut décisif dans l'histoire de l'homme d'avoir compris ça.
Alors, on va poursuivre ce débat dans un tout petit instant. On verra notamment quels sont les indicateurs concrets, hein, qui nous permettent d'espérer le retour des jours meilleurs. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
19h30, c'est la suite de votre débat sur Europe 1. Et ce soir, on se projette dans l'après-crise. Allons-nous passer d'une période de dépression collective à une période d'euphorie collective, une décennie faite d'espoir, d'innovation, d'effervescence créatrice dans tous les domaines? Un siècle après les années folles, l'histoire va-t-elle se répéter? À l'approche de l'été, et alors que la vaccination s'accélère, une furieuse envie de vivre nous étreint. Soyons fous, essayons d'imaginer ces nouvelles années folles. À mes côtés ce soir, Jean-Marc Guttori, éditorialiste au journal Les Échos, Erwan Devez, spécialiste des neurosciences et de la gestion de crise, le sociologue Jean Viard également, et Guy Boyer, qui est directeur de la rédaction de Connaissances des Arts. Alors on va essayer de détailler les différents secteurs qui pourraient connaître un essor à l'issue de cette crise. On va d'abord parler d'économie, Jean-Marc Guttori, puisque l'argent c'est le nerf de la guerre. Le monde et la France ne risquent-ils pas de mettre quand même des années à se relever financièrement de cette crise?
Imaginez-vous qu'on soit, il y a un siècle, un peu plus d'un siècle, hein ? Le pays vient de perdre 2,5 millions d'hommes, surtout à la guerre. Des centaines de milliers de maisons ont été détruites. Et puis juste à la sortie de cette guerre, il y a encore des centaines de milliers de personnes qui sont mortes à cause de la grippe espagnole. Donc une économie dévastée, une population dévastée. Vous m'auriez dit, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Grande aurait été la tentation de vous décrire une catastrophe. Hein, on n'a pas assez de bras, on a des maisons à reconstruire, ça va être absolument terrible. On a eu, pendant les années 1920 en France, 70% de croissance en 10 ans. C'est la meilleure décennie du siècle, tout simplement.
Oui, mais il y a eu une révolution industrielle à ce moment-là, ça ne sera pas le cas.
Alors, il y a eu une révolution industrielle, hein, qui était le fait qu'on passait à la production de masse de biens de consommation. Hein, ça a commencé avec la voiture, et puis très vite, il y a eu la machine à laver, et puis ensuite l'électronique grand public qui est venue plus tard. Mais donc c'est parti, ça a commencé à ce moment-là, hein, la première chaîne de montage, hein, c'est Henry Ford aux États-Unis en 1911, ça vient très vite après la guerre en Europe et en France. Alors là, vous allez me dire, il n'y a rien. Ben si, il y a au moins trois grandes révolutions qui sont à l'œuvre. La première, la plus évidente, et en même temps celle qui paraît la plus étonnante, c'est la révolution numérique. Vous allez me dire, le numérique, l'ordinateur, ça existe depuis 70 ans, Internet, ça fait un quart de siècle. Oui, mais ces techniques, il faut du temps pour les apprivoiser. C'est ce qui s'était passé avec l'électricité. Hein. La première ampoule électrique, c'est année 1870. La révolution de l'électricité, c'est 1910, 1920, 1930. C'est plusieurs décennies après. Là, il peut se passer la même chose. Hein. On a accumulé beaucoup de un vrai capital de connaissances, y compris dans la population, y compris grâce, si je puis dire, à la crise Covid dans la population la plus âgée. Maintenant, ce capital, on va pouvoir l'utiliser, on va pouvoir l'exploiter. Et on sait qu'il y a un gisement de possibilités dans le numérique. On l'a bien vu depuis un an avec le télétravail, mais aussi la vente à distance, avec l'enseignement à distance, et avec des nouvelles formes d'organisation.
Aussi, qui a explosé. La télémédecine. Bon, au niveau du téléenseignement, il y a encore un peu de progrès. Mais bon.
Oui, mais on voit qu'il y a 1000 voies de progrès en la matière. Donc, premier domaine, le numérique.
Le numérique.
Deuxième domaine, ben, on l'a vu aussi l'an dernier, le biologique.
Ouais. Hein,
les vaccinations, on sait qu'on va avoir, on a des champs de progrès absolument énormes, et on sait là qu'on a des techniques qui mûrissent depuis des années, hein, comme c'est toujours le cas quand il y a un moment d'effervescence. Auparavant, il y a une longue maturation, et cette longue maturation, ben, on l'a vu avec le vaccin ARN, et on sait qu'il y a plein d'autres domaines où ça va pouvoir aussi se développer. Et enfin, il y a
qu'on parle de trouver des traitements contre certains cancers, oui, contre le sida, oui, grâce à toutes ces recherches,
exactement,
qui ont accéléré la recherche en général.
Et puis, ça fait sauter des verrous. On a vu que ça marchait, alors que jusqu'à présent, on pensait que ça aurait du mal à marcher avant des décennies. Donc, deuxième point, la biologie. Troisième point, troisième volet, c'est toute la transition énergétique et écologique. Normalement, dans une crise comme celle qu'on a eue depuis un an, On aurait pu dire, oh là, ce sujet-là, on verra plus tard. Il s'est passé exactement l'inverse. Dans tous les plans de relance, il y a un volet de transition énergétique qui est extrêmement important. Et dans les entreprises, quand vous discutez avec des dirigeants d'entreprise, il n'y en a pas un qui vous dit que c'est un sujet qui est devenu moins important. Au contraire, c'est devenu un sujet qui est plus important. Et là encore, il y a 1000 initiatives qui sont possibles. Ce n'est pas un hasard si l'une des entreprises qui est maintenant parmi les plus chères au monde, c'est Tesla. Tesla, c'est la voiture électrique. Mmh. C'est la transition de la voiture vers une nouvelle étape de sa vie. Et il y a beaucoup d'autres domaines permis par qui vont pouvoir s'épanouir grâce à cette transition énergétique et écologique. Donc il y a trois grands domaines techniques qui peuvent maintenant connaître des progrès très rapides. Je vous rappelle que dans les années 1920, on n'en avait qu'un, là on en a trois.
Erwan Deves, vous partagez cet optimisme de Jean-Marc Vittori?
Absolument, et ce sont les Français aussi qui le partagent. On a remarqué dans les études que nous avons menées deux caractéristiques très fortes. D'abord, les Français veulent revenir à l'essentiel. Prendre soin d'eux, prendre soin des autres, échanger, partager, ça c'est quand même une formidable nouvelle de se dire que enfin, peut-être grâce à une crise, et Dieu sait si les crises ont des vertus, eh bien grâce à cette crise, on va revenir à l'essentiel. Et le deuxième point, c'est cette volonté de retrouver du sens. Pourquoi je me lève le matin? Et donc cette volonté de retrouver du sens, eh bien elle va s'accompagner d'une forte demande de changement. On a par exemple 63% des Français qui nous disent qu'ils envisagent de changer de travail d'ici à 2 ans. Alors ça va souffler, je dis à mes amis des RH de se préparer parce qu'on va devoir s'adapter à cette nouvelle réalité, mais c'est une excellente nouvelle parce que de ce fait-là, on va faire beaucoup plus de progrès en quelques années que nous ne l'aurions fait en 20 ans ou en 30 ans.
Vous êtes d'accord, Jean Viard, les Français vont devenir plus aventureux pour rattraper le temps perdu?
Ben, une partie. Alors, ça veut dire aussi bousculement des vies privées, déménagement. Je veux dire, on va changer sous la couette, on va changer dans le territoire, on va changer dans les métiers et on va chercher du sens à ce qu'on fait. Et puis, vous savez, c'est un peu comme quand on revient de vacances, mais c'est beaucoup plus grave. On regarde autour de soi, on se dit au fond, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de vivre? Bon. Et là, on le vit d'une manière beaucoup plus forte. Mais je voudrais rajouter une idée, si vous voulez. Il y a plein de possibilités dans des périodes comme ça, mais c'est aussi des périodes qui créent le bolchevisme ou le fascisme. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est des périodes de grande rupture. Et quelque part, si on ouvre des portes, si on donne de l'espoir, si on sait faire, nous, les intellectuels, les journalistes, hein, dire, voilà, c'est possible, il faut créer des tiers-lieux, il faut accueillir ces mouvements. Si voici la société est accueillante à ces créations, ça peut aller très vite. Mais si à l'inverse, on a des débats, oui, moi, je te l'avais bien dit, si on m'avait écouté avant, on n'en serait pas là, etc., on va aller contre le mur. Donc, si vous voulez, je crois qu'il faut se dire qu'on va construire une autre société, mais elle peut être ou plus négative ou très positive. Mais la ligne entre les deux va être délicate. C'est l'action des hommes qui va la faire, si vous voulez. Et l'action des politiques, là, qui va être des chefs d'entreprise, qui va être très importante.
Guy Boyer, vous êtes d'accord avec ce que vient de nous dire Jean Viard?
Tout à fait, les choses
devraient... C'est nous, finalement, qui sommes maîtres de tout ça.
Tout à fait. Et je crois que les artistes ont leur mot à dire. Ils s'intéressent aux questions de société aujourd'hui. Tout ce qui peut être lié au social, à l'environnemental. Il y a énormément d'artistes qui travaillent sur tout ce qui est la protection, l'environnement, tout ce qui peut être aussi tourné autour du numérique, on l'a dit tout à l'heure. Les artistes s'en sont emparés, font des productions nouvelles. Et puis, on s'intéresse au local. Ça, c'est vraiment nouveau. Au lieu de parler de foires internationales à Hong Kong ou à Shanghai, désormais, je pense qu'on va s'intéresser au terreau, aux artistes. On parlait tout à l'heure des tiers-lieux, effectivement. Il y a la création de phalanstères d'artistes. Moi, la semaine dernière, j'étais à Pantin. J'ai vu un truc absolument génial dans un bâtiment à l'abandon. 20 artistes se sont associés, en accueillent 30 autres et mettent à disposition le matériel nécessaire à leur création. Et lorsque le bâtiment va reprendre sa vie, ou enfin va être détruit et reconstruit pour faire du neuf, eh bien ils vont aller ailleurs. Ils ont commencé à Saint-Ouen, ça s'appelle Vendeur parce que c'était l'usine Vendeur de Saint-Ouen. Ils sont allés à Pantin et maintenant ils sont à Clichy. Donc vous voyez, tout ça fait un art nouveau qui va s'intéresser, s'ancrer dans la réalité et qui va être surtout très engagé.
Moi, j'aime beaucoup votre optimisme à tous ce soir. J'ai quand même une question, Jean-Marc Vittori. Tous les pays, ils ont dépensé des millions, en particulier la France, pour compenser les pertes subies. Les dettes se sont creusées. Comment est-ce qu'on peut se relever d'un tel niveau d'endettement?
On a eu exactement le même débat dans les années 1920, Keynes disait, l'économiste anglais célèbre, avait écrit des points de vue dans l'équivalent des échos il y a un siècle en disant ben, « on est désolé, mais la France ne va pas réussir à s'en sortir, il va falloir qu'elle fasse défaut ». Il a écrit ça et ben, en fait, la France n'a pas fait défaut. Il y a une très forte croissance qui a permis de rembourser cette dette. Hein, 70% de croissance quand le gâteau grossit, ben c'est plus facile d'en prendre un petit bout pour donner aux créanciers. Et puis il y a aussi eu de l'inflation qui a aidé. Donc encore une fois, en 1921, je ne vous aurais certainement pas dit il va se passer ça. J'aurais vu un scénario beaucoup plus sombre et c'est pas celui-là qui s'est déroulé. On peut avoir des mécanismes tout à fait salvateurs qui jouent, y compris pour aider à rembourser cette dette.
Bien. Eh bien, écoutez, on va poursuivre ce débat dans un tout petit instant. On se retrouve, restez avec nous, surtout, c'est passionnant. Tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
19h41, suite de notre débat du Club des Idées consacré au monde d'après. Va-t-on vivre une période de renaissance, de libération, de folie, comme on en constate parfois après des événements graves? Allons-nous retrouver l'insouciance et à quel prix? Avec moi ce soir, toujours pour se projeter dans ce monde d'après, Erwan Devez, spécialiste des neurosciences, de la gestion de crise, Jean-Marc Vittori, éditorialiste au journal Les Échos, le sociologue Jean Viard, directeur de recherche associé à Sciences Po, et Guy Boyer, qui est directeur de la rédaction de Connaissance des Arts. Alors justement, il y a un aspect qu'on a évoqué rapidement, c'est la création artistique, parce que les années folles, hein, puisqu'on parle d'elles, les années folles, c'était ça aussi, la fête, la danse, la nuit.
On dit que j'aime les aigrettes, les plumes et les toilettes, c'est vrai. On dit que j'ai la voix qui traîne en chantant mes rengaines, c'est vrai.
Mistinguette, figure emblématique bien sûr des années folles. Dans les années 20, il y a beaucoup de barrières qui ont sauté, notamment dans la légèreté, dans l'expression artistique. Cette légèreté, elle passe par la fête, par l'art également. Hein, Gilles Boyer, c'est ce que vous nous disiez. Et vous pensez que d'un point de vue artistique, la sortie du Covid sera marquée par un renouveau artistique?
Alors, il faut faire attention. Quand on parlait des années folles, effectivement, c'est une période plutôt insouciante, joyeuse, explosive. On s'est libéré de carcans. Quand on regarde la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas du tout le même topo. Là, au contraire, les artistes sont revenus à l'essentiel. Quand on regarde l'art informel, c'est-à-dire l'abstraction, ou du côté des Américains avec l'expressionnisme abstrait, on revient à zéro, un retour à zéro. On repart de base et on se pose des questions de qu'est-ce qu'on va pouvoir créer. Donc, ce n'est pas vraiment des années folles. Ce sont plutôt des années d'introspection et puis on a inventé de nouvelles formes. De même, après d'autres crises, comme la crise du Golfe, la guerre du Golfe, pardon, le sida ou bien la crise des subprimes, on ne peut pas dire qu'il y a eu des années folles. Je pense que le nerf essentiel, c'est l'argent. Il faut qu'il y ait de l'argent pour permettre à cette création de s'exprimer. Maintenant, en ce qui concerne le contenu, oui, on a besoin de choses nouvelles. Oui, on a besoin de liberté et on veut pouvoir s'exprimer. On veut pouvoir dire les choses librement.
Jean Viard, est-ce que les confinements ont été propices, selon vous, à la création artistique?
Ben, aux arts amateurs, c'est sûr. D'ailleurs, la vente de guitare a augmenté de 20%, par exemple. C'est un indicateur parmi d'autres.
Oui.
Mais je veux dire que je pense que dans un tas de milieux, on a fait plus d'art, on a fait plus. Et puis, une chose, enfin, quand même, on a sauvé des dizaines de millions de personnes âgées. Si vous voulez, dans la hiérarchie de nos valeurs, il n'y a pas dans l'histoire humaine un moment où 5 milliards d'hommes se sont enfermés chez eux pour sauver les vieux, si je peux le dire comme ça, puisque j'en fais partie. C'est-à-dire, en gros, les improductifs, ceux qui ruinent la sécu, qui nous coûtent avec leur retraite. On a vu des scènes dans les maisons de retraite, on se battait pour des gens, mais il leur restait quelques mois à vivre. Et donc, si vous voulez, excusez-moi, c'est magnifique. Et on oublie de dire à quel point c'est magnifique. Parce que c'est pas, si ça avait été les enfants qui étaient malades, ou je sais pas, qui mouraient, ou les mamans enceintes, on aurait dit on se bat pour la survie. Mais là, on ne peut pas dire ça. On s'est battu pour un principe fondamental qui est la beauté de la vie. Et, ouais. Et si vous voulez, on a arrêté l'économie pour ça. Je trouve qu'on ne le dit pas assez. Et donc, si vous voulez, ça offre une période où on peut penser qu'un certain nombre de valeurs absolument essentielles peuvent reprendre une place, y compris la citoyenneté. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on a vécu depuis 2 ans? Le citoyen a écrasé le consommateur, bien obligé. Mais depuis 50 ans, c'est un peu le consommateur qui écrasait le citoyen. Donc, si vous voulez, on a un retour du citoyen plus important que le consommateur. Alors, tout ça, voilà, je pense que là, ça va faire un jeu dans les valeurs. faire. Et puis, je finirai en disant une idée. Vous savez, on parle beaucoup des dettes. Oui, mais pour une grande partie, c'est un investissement dans la compétence. On est tous plus compétents en numérique. On a lu des livres, on a réfléchi. Donc, si vous voulez, et ne parlons pas d'investissement dans la science, Jean-Marc Guidery l'a très bien dit. Donc, je pense que quelque part, on a fait une énorme période de formation continue de l'humanité. Il faut le dire aussi comme ça. C'est pas un investissement. On n'a pas seulement bouché des trous, si vous voulez. On a rempli des cerveaux. Et c'est ça aussi qui donne des possibilités positives.
Vous vouliez rajouter quelque chose, Guy Boyer ?
Oui, pour dire que les musées, les galeries, par exemple, ont inventé de nouvelles formes. Ils ont créé des visites virtuelles. Et les gens, pendant les confinements, avaient un appétit d'art. Moi, j'ai écrit un édito disant justement « Rendez-nous notre art quotidien, parce qu'on en a besoin, c'est vital ». Et c'est intéressant de voir qu'on a inventé des formes nouvelles et que tout le monde s'est rué sur Internet à regarder les sites artistiques. Enfin, nous, Connaissance des Arts, on a triplé l'audience pendant le temps du confinement. Ça veut dire que les gens avaient du temps et voulaient retrouver la beauté, comprendre les choses. Et je pense que tout ça a été très bénéfique pour la création.
Erwan Devez, vous êtes d'accord avec ça ? Ça sera peut-être un mal pour un bien qui va permettre de se réinventer ?
Oui, alors par rapport aux arts, les arts sont des tuteurs de résilience extraordinaires, extraordinaires. C'est de loin essentiel à une vie et en particulier lorsque nous sommes dans des périodes de crise. Je voulais aussi rebondir sur un point, le point que Jean Viard a souligné tout à l'heure. Je vous ai dit tout à l'heure que 80% des dirigeants étaient confiants dans leur futur personnel. Mais quand on leur demande « Est-ce que vous êtes confiant dans l'avenir de la France ?», ce chiffre dégringole à 33%. Et ce fossé entre 80% et 33%, c'est le problème que nous avons à régler dans ce pays. C'est-à-dire qu'il y a une espèce aujourd'hui de délectation des oppositions de toutes sortes, de l'infantilisation permanente, je disais tout à l'heure. Il faut en sortir. Il faut sortir de cela. Et il faut tous ensemble, ce n'est pas seulement les politiques, ce n'est pas seulement les médias, c'est tous ensemble, collectivement, il faut se remonter les manches et voir comment on peut apporter à cette société et essayer de faire corps ensemble, c'est le principal défi qui s'offre à nous.
Alors justement, on a vu qu'on va peut-être réussir à sauver notre économie, hein, c'est ce que nous disait Jean-Marc Guidery, mais va-t-on réussir à sauver notre planète ? C'est important aussi. Moins de voyages en avion, moins de gaspillage dans notre alimentation, davantage de production locale. Ça va être ça aussi l'une des conséquences de ce que l'on vit en ce moment, Jean-Marc Guidery ?
Dans beaucoup d'endroits, on s'est dit qu'il faut qu'on regarde les risques. On avait sous-estimé le risque d'une épidémie, on a eu tort. Et on regarde, on s'est demandé quels sont les autres risques. Et quand on regarde les autres risques, c'est évident que l'un des plus grands risques que nous avons, c'est de perdre l'équilibre climatique de la planète. Donc, il y avait déjà une prise de conscience qui émergeait très fort depuis 2019 avec l'année Greta Thunberg, cette jeune militante suédoise qui avait réveillé les esprits dans un certain nombre de cas. Mais cette prise de conscience, elle s'est accélérée l'an dernier. Et je crois que, aussi, on développe. Ce qui s'est passé, moi, ce qui m'a frappé entre ce qui s'est passé entre les États-Unis et l'Europe sur l'histoire du vaccin, c'est que les États-Unis, ils y ont cru dès le début. Ils y sont allés. Et ça a marché. Et sur la révolution énergétique et écologique, c'est un peu la même chose. Les Européens disent on va faire des normes, on va mettre des contraintes, tout ça. Les Américains ont dit on va foncer dans la recherche. Et on commence à voir un certain nombre de produits, de solutions qui apparaissent. Donc oui, il y a des solutions qui apparaissent de ce côté-là. Et on peut avoir l'espoir d'avancer enfin
le
vraiment sérieusement sur cette question.
Le réveil de notre conscience écologique, Guy Boyer ?
Oui. Il faut penser aussi qu'en art, on a pris cette conscience écologique. Les conservateurs de musées, les organisateurs des centres d'art ont essayé de trouver des solutions. Par exemple, lorsque vous montez une exposition, plutôt que de faire venir le tableau des États-Unis, à tableau égal et de même intérêt, on va prendre un tableau qui est conservé en France ou en Europe. De même, un centre d'art comme les magasins généraux qui sont à Pantin, ils ont eu l'idée pour une exposition qui avait besoin de bois, un artiste qui a fait une œuvre avec des tonnes de bois, on va garder ce bois pour une autre œuvre qui sera réalisée sur place. Donc fini cette espèce de gabegie, de transport vraiment hors nature. Pardon.
Vous êtes d'accord qu'on va vers une société peut-être plus frugale et plus sobre, Erwan Devez, pour conclure ?
Oui, absolument, c'est ce que disent les études. Mais pour conclure, peut-être, moi, je voudrais insister sur un point, et en particulier par rapport aux plus jeunes. Il faut accepter le fait que vivre, c'est aussi prendre des risques. Vouloir se protéger de tout, d'abord, c'est une illusion, et c'est le pire service que vous pouvez rendre à votre cerveau. Donc, je ne sais pas si les futures années seront folles ou molles, mais elles doivent être utiles et enthousiasmantes.
En tout cas, merci beaucoup à tous de m'avoir accompagné ce soir. On ne sait pas si ce sera comme avant, ou comme avant en pire, ou comme avant en mieux. En tout cas, on a hâte d'y être, d'avoir passé cette période. Merci à vous de m'avoir accompagné.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
Et dans le Club des Idées, on va maintenant plonger, comme chaque soir, dans les archives d'Europe 1. 3 minutes pour comprendre, pour éclairer l'actualité. Ça s'appelle Le Jour Où.
C'est hier que le général de Gaulle est mort.
Finale de Coupe du Monde.
Moi, président de la République.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
Yes, we can.
Bonsoir Zoé Pallier. Bonsoir. Alors aujourd'hui, on revient avec vous 53 ans en arrière. Le 27 avril 1968, l'équipe du professeur Cabrol réalise la première greffe du cœur en Europe.
Oui, sur une table d'opération à l'hôpital de la Pitié à Paris, cette nuit-là. Un patient de 66 ans atteint d'une maladie cardiaque mortelle. Sa cage thoracique est grande ouverte. Les chirurgiens tentent d'y greffer le cœur d'un jeune homme, mort le jour même dans un accident de voiture. Quelques secondes de silence et un premier battement, un autre. Le cœur reprend à un rythme normal. Après 5 ans d'expérimentation, c'est une victoire pour l'équipe du professeur Cabrol.
La transplantation commencée le samedi 27 avril à 22h, s'est terminée le dimanche 28 avril à 7h. Elle s'est déroulée sans aucun incident.
Une entrée dans l'histoire sous le feu des projecteurs, journalistes et caméramans s'entassent dans les couloirs de l'hôpital pour suivre en temps réel l'état de santé du greffé, Clovis Roblin, décrit ici par son petit-fils.
Votre grand-père, qui est-il finalement ?
Vous pourriez un petit peu le raconter ?
Physiquement, un grand, à peu près grand comme moi, 1m75 environ, des cheveux blancs, quoi. Oui, assez costaud.
Voilà, costaud, robuste, on l'a entendu, Clovis Roblin a survécu à cette greffe, mais dans les heures qui suivent, bien tout ne se passe pas comme prévu.
Oui, au fil de la journée, les bulletins de santé sont de plus en plus mauvais.
Ce matin, le malade est en condition défavorable et le pronostic que j'avais qualifié de très réservé devient inquiétant.
Est-ce qu'il a pris conscience ?
Non.
Et finalement, 53 heures tout juste après l'opération, le cœur greffé cesse de battre. Écoutez la réaction du professeur Cabrol au micro Europe 1 de François Jouffa.
Nous sommes absolument effondrés parce que finalement, nous n'avons pas du tout pu sauver M. Roblin.
Est-ce que l'on peut dire que vous avez appris quelque chose en tant qu'homme de science en faisant cette expérience ? On peut employer le mot expérience maintenant, entre guillemets.
Oh non, ce n'est pas une expérience. Je vous dis, ça a été une lutte pour sauver quelqu'un. Néanmoins, un échec chirurgical n'est jamais sans profit. Mon plus vif souhait, c'est que ceci serve à la mise au point parfaite de cette intervention qui permettra de sauver de nombreuses vies humaines.
Et d'ailleurs, les services de chirurgie sont nombreux à vouloir s'y mettre après cette grande première, mais ça ne suffit pas, Zoé.
Non, pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas assez de greffons, c'est-à-dire de cœurs à greffer disponibles, d'autant que le donneur doit être du même groupe sanguin que le receveur. Et à l'époque, le don d'organes en est à ses tout premiers balbutiements.
Je crois qu'il faudra que les gens portent sur leur carte d'identité volontaire pour prélèvement d'organes à mon décès.
Et puis même avec un donneur compatible, le risque de rejet de la greffe reste énorme. Grande avancée donc dans les années 70 avec la découverte de médicaments anti-rejet. Aujourd'hui, on peut espérer vivre 11 ans avec le cœur d'un autre. La pénurie de greffons, elle, persiste. La prochaine révolution, ce sera donc celle du cœur entièrement artificiel. Testé sur une dizaine de patients par le laboratoire français Karma, il doit permettre de soigner les malades sans attendre de trouver un donneur.
Et on est fasciné par ses prouesses. Merci beaucoup. Merci Zoé Pallier.
Merci.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, le rappel de l'actu avec Julien Pierce et puis musique avec vous, Émilie Mazoyer. Bonsoir Émilie.
Bonsoir Isabelle.
Alors, qu'est-ce que vous nous avez concocté ce soir ?
Ce soir, on reçoit, je vous fais deviner ou pas ?
Je ne suis pas très douée, mais on peut essayer.
Allez, allez, on reçoit une chanteuse française, mais qui s'est chantée à peu près dans toutes les langues, qui a vendu plusieurs de dizaines de millions de disques, qu'on connaît depuis les années 60, et qui a aussi cartonné au moment du disco.
Ah bah oui, oui, Sheila.
Bravo, bravo, ouais. C'est Sheila. « Sheila qui a sorti au début du mois un nouvel album avec notamment dessus une chanson signée Nile Rodgers, qui n'avait pas d'ailleurs composé quoi que ce soit depuis bien longtemps. Et l'album s'appelle Venu d'ailleurs. Sheila va donc venir nous en parler ce soir dans Musique.
Eh bien écoutez, ça va être une très belle émission comme toujours, c'est sûr. Merci Emily.
Merci Isabelle.
Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous retrouve demain dès 18h. D'ici là, bien sûr, on écoute Le Monde Changer.